pour ce matin, j'aimerais prendre à partir d'un texte dans l'évangile de Jean, chapitre 6, tout un processus pour ceux qui viennent, qui suivent depuis longtemps. J'avais fait plusieurs séries sur le sens de la vie, mais pas le sens de la vie, ce qui donne du sens à nos vies, mais sur mettre les choses dans le bon ordre, dans les cycles de vie spirituels. Hein. Et ce matin, c'est quelque chose qui va un petit peu dans ce sens-là, même plutôt beaucoup qu'un peu. Je pourrais appeler ça le pain du ciel, l'œuvre de Dieu et les bonnes œuvres préparées d'avance. Alors, on va lire d'abord quelques passages. Jean 6, 14. Ça, c'est juste après que Jésus ait multiplié, parce qu'il prêchait, il y avait une foule, ils avaient faim, il n'y avait pas de boulangerie à côté, ni de Cob, ni de Migros. Donc, il prend quelques pains, il les multiplie et il fait manger toute une foule. Hein. À la vue du signe miraculeux que Jésus avait fait, ces gens disaient « Cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Cependant, Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire au roi, se retira de nouveau sur la montagne tout seul. Donc là, les disciples, ils partent de leur côté, et puis après, ils prennent une barque, ils traversent le lac, hein, un grand lac, et puis Jésus, le soir, il n'y a pas de barque, alors ils traversent le lac sans barque, et il les rejoint, puis les gens le cherchent partout, puis ils apprennent qu'il est de l'autre côté, ils font le tour du lac, et ils arrivent. Quand les gens s'aperçurent que ni Jésus ni ses disciples étaient là, ils montèrent dans ses barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent de l'autre côté du lac et lui dirent « Maître, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. » Ils lui dirent « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » « Quel signe miraculeux fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi ? Que fais-tu ? Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, comme cela est écrit, il leur a donné le pain du ciel à manger. » Jésus leur répondit « en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Jésus leur répondit « C'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, et vous m'avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. » Alors, c'est un texte qui est un peu long, mais là, je vais le reprendre tranquillement, on va le reprendre ensemble. La première chose qu'on peut voir de toute cette histoire, hein, à la vue du signe miraculeux au début du texte, il voulait le faire roi. C'est qu'en fait, les miracles sont utiles pour deux choses. Bien sûr, premièrement, ils répondent à un besoin. Jésus a multiplié des pains parce que les gens avaient faim. Ce n'était pas juste pour dire, vous savez quoi, je peux faire un truc, hein, voilà. Hein. Non, Jésus a fait ça parce qu'ils avaient faim, il n'y avait pas d'autre possibilité, alors il a fait un miracle. Hein. Donc les miracles répondent à un besoin. Si Jésus guérit quelqu'un, c'est parce qu'il est touché, cette personne est malade. Alors pourquoi il ne guérit pas tous les malades ? Je n'ai toujours pas de réponse à cette question. Mais quand il le fait, c'est parce qu'il y a un besoin. Et conséquence de ça, ça peut attirer l'attention. Les gens ont entendu parler d'eux. Mais ce qu'on voit au travers de ce texte, c'est que les miracles ne produisent pas la foi. C'est assez incroyable parce que souvent on se dit... Hein, et si il se passait ça, t'imagines, bah, tout le monde croirait, quoi. Ben non, parce que à l'époque de Jésus, où les gens étaient pourtant dans une culture moins, ou pas du tout, pas athée comme de nos jours, hein, Jésus a fait des miracles et les gens n'ont pas cru dans le sens, n'ont pas reconnu qui il était, ça ne les a pas nourris et ils ne l'ont pas accepté. Donc les miracles sont utiles parce qu'ils répondent à des besoins, ils manifestent l'amour de Dieu, ils manifestent la puissance de Dieu, et ils ont quand même le côté d'attirer l'attention, parce que tout d'un coup, ça, c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe? Mais si ça s'arrête là, ils nourrissent pas la foi. Et ça, je crois que c'est important, parce que moi, je m'aperçois que de plus en plus, on entend des façons de communiquer l'évangile qui sont basées uniquement sur « il faut qu'il y ait des miracles pour que les gens croient ». Et si Dieu les fait, ces miracles, c'est super. Et puis, ben, peut-être ça attire l'attention des gens. Et après, ils viennent à une vraie foi. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Hein. Mais juste être au clair avec cette idée, le miracle n'est pas une nourriture spirituelle. C'est quelque chose que Dieu fait, c'est un signe. Et d'ailleurs, dans les actes, il est dit que c'est un signe qui suit ceux qui croiront en son nom. Hein. Donc nous, on ne suit pas les miracles, mais on suit Christ et les miracles nous suivent. C'est différent. Voilà. Deuxièmement, lorsque ces gens s'approchent de Jésus, donc après, hein, ils le cherchent, etc. Et puis, ils sont là, « Ah, Jésus, Jésus !» Et puis, Jésus leur dit, « Vous me cherchez juste parce que vous avez mangé. » Mais ce n'est pas un reproche. Il leur permet d'y voir clair. Et ça, c'est une chose qui est importante. On a beaucoup parlé ce matin, enfin, moi j'ai entendu en tout cas dans la louange, dans ce que nous a partagé Ami, de ce besoin d'être rempli de lui, hein, de s'approcher de lui, de le connaître, etc. Et ça, c'est le vrai besoin. Quand on s'approche de Christ, il nous donne de la lumière pour comprendre, même si c'est pour comprendre qu'on se trompe, c'est pas grave, mais ça commence par là, hein. Ces gens avaient le cherchaient pour une raison qui n'était pas forcément la meilleure raison du monde, mais Jésus ne leur dit pas, c'est pas bien. Juste, il leur dit, ah, vous me cherchez pour cette raison, mais voilà pour laquelle vous devriez me chercher. Et puis, il rebondit là-dessus pour leur apporter ce qu'il voulait vraiment leur apporter. Et je crois que tous, autant la première fois, ça dépend, quand on a grandi dans une famille chrétienne, on a du mal à savoir exactement comment et pourquoi on est venu à Christ. Hein. Mais sinon, que ce soit la première ou les autres fois, on vient toujours à Christ parce qu'on a faim de quelque chose. C'est évident. Hein. Voilà. On a besoin de quelque chose et on s'approche de lui, toujours. Hein. Et ça, ce n'est pas un souci, c'est même une bonne chose. La faim, Dieu a voulu la faim pour qu'il y ait du désir et pour qu'on le désire, lui, dans le domaine spirituel. Mais ce sentiment de faim, on doit comprendre que la vraie faim, hein, c'est pas, elle ne peut pas être nourrie par quelque chose qui vient de ce monde visible. Je suis toujours impressionné par la facilité avec laquelle ce qu'on peut appeler les détails de la vie peuvent occuper notre tête. Je suis quelqu'un, pour un homme qui n'aime pas spécialement les voitures, j'en ai rien à faire, ça ne m'intéresse pas, j'aime pas les sports motorisés, j'ai un véhicule parce qu'il faut me déplacer, et puis c'est tout. Hein. Mais là, je dois changer de véhicule parce que le mien arrive au bout là, mais pendant 2 semaines, mais ça m'a pris la tête. Mais incroyable! Au point que quand je conduisais, alors que moi quand je conduis, je médite, je prie, j'aime conduire, hein, je regardais les marques des voitures, je me dis, mais c'est incroyable, ça fait 2 semaines que je pense à rien d'autre qu'à ça, alors que j'aime pas ça en plus, quoi. C'est pas mon truc, quoi. Il y a des choses que j'aime, mais pas ça. Et puis voilà, puis on se fait voler 1 semaine de notre vie ou deux, parce qu'on change de voiture. Mais c'est lamentable, mais c'est comme ça. Hein, voilà. Donc on a très vite faim de plein de choses, mais qui ne nourrissent pas, qui ne remplissent pas, mais par contre, qui peuvent nous tenir occupés. Et en fait, c'est comme ça qu'on vit, la plupart de nos contemporains vivent, hein, en sautant d'une fin à une autre, quoi. Là, je change de voiture, après je change de maison, après je change pas forcément de femme, ça arrive de temps en temps, mais pas tout le temps. Je change de métier, je change de ci, je change de vêtements, je change de vacances, je change de lieu. Un nouveau projet qui cache ma faim. Et puis, parce qu'on est chrétien, bon, on demande à Dieu, aide-moi à choisir la bonne voiture, aide-moi à choisir la bonne femme, aide-moi à choisir le bon pull, aide-moi à faire la bonne affaire dans les soldes, aide-moi à trouver une place de... Et on pense que vivre avec Dieu, c'est lui demander de nous nourrir dans ses fausses fins. Alors, encore une fois, il nous faut une voiture parce qu'il faut se déplacer. Enfin, certains peut-être n'en ont pas besoin, mais d'autres, oui, il nous faut une maison, il nous faut... Hein. C'est pas les choses qui sont mauvaises, mais c'est le fait qu'elles occultent la vraie fin. Mais quand on choisit de s'approcher de Christ, il nous dit, tu viens à moi pour ça, mais en réalité, c'est pas pour ça. Hein? Oui, tu voudrais que je t'aide à ça, à ça, à ça, à ça, mais voilà de quoi tu as besoin. Tu as besoin de manger le vrai pain. Celui qui... Parce que tout le reste, ben, c'est nos tentatives souvent instinctives. De cacher cette faim qui est en nous, cette faim pour Dieu, cette faim pour ce pain qui vient du ciel, et c'est déjà la conclusion, hein, mais où quand, à la fin, Jésus va dire, voilà, je suis le pain qui rassasie. Hein. Si tu mangez, si vous buvez ma vie, vous aurez plus faim et plus soif. Pas pour toute la vie, hein, mais pour ce repas jusqu'au prochain. Donc, s'approcher de lui, ça peut révéler la vraie faim derrière les fausses faims. Et là, ce qui est incroyable, c'est qu'immédiatement, et on est tous comme ça, les humains, hein, quand il leur dit ça, qu'est-ce qu'ils lui disent ? Je cherche le texte, verset combien ? Je ne sais plus. Oui. « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Hein ? Pouf ! Mais tout faux, toujours tout faux, quoi. Ça, c'est nous, hein ? Ben, c'est moi, en tout cas. Hein ? Ils ne savent pas, ils sont là avec leur fausse faim. Jésus leur dit « Non, mais ce n'est pas de ça que vous avez besoin. » Et immédiatement, question d'après, qu'est-ce qu'il nous faut faire pour Dieu ? C'est quoi les œuvres à accomplir ? C'est quoi le truc ? Hein ? Il faut aller au culte, il ne faut pas aller au culte, il faut aller à la réunion de prière, il faut lire sa Bible, il ne faut pas lire sa Bible, il faut donner la dîme, il faut faire ci, il faut aller là, il faut là, il ne faut pas mentir, il faut pas... Et Jésus dit non, non. Vous voulez savoir ce que c'est l'œuvre de Dieu, hein ? Et notez bien que c'est au singulier, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas les choses à faire. L'œuvre de Dieu, la grande affaire de Dieu, là, le seul vrai business important, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. Mais parce que les chrétiens évangéliques sont doués pour évacuer les choses, on a rattaché ce verset à la conversion. L'œuvre de Dieu, c'est de croire. Alors, un jour, je suis devenu croyant, même si ce n'est pas un jour, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, si j'ai grandi dans une famille chrétienne, peut-être ça s'est passé sur un mois, sur six mois. Mais enfin, voilà. Un jour, j'ai cru que Dieu existait, que Jésus était mort, qu'il était ressuscité. Voilà. Et maintenant, Seigneur, c'est quoi les choses à faire ? Et Jésus dit, ça n'a pas changé. L'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qu'il a envoyé. Mais croire en Christ... Ce n'est pas juste savoir qu'il existe, qu'il est Dieu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité. Évidemment que ça commence par ça. Mais ce n'est pas que ça. Croire, ça veut dire placer sa confiance, connaître, vivre avec, partager, savoir. C'est développer une relation de confiance. Et comment je peux faire confiance à quelqu'un que je ne connais pas ? Comment je peux faire confiance à quelqu'un dont je ne sais pas ce qu'il pense ? L'œuvre de Dieu pour nous, c'est de croire en Christ. L'œuvre de Dieu pour nous, c'est d'être rempli de Christ, c'est de connaître Christ. Et où se trouve Christ ? J'ai trouvé ça très intéressant, quand il fait des miracles, les gens viennent le chercher pour qu'il soit roi. Honnêtement, aujourd'hui, quelle église refuserait, si Jésus était sur terre, qu'il vienne s'installer dans son église et qu'il devienne roi ? Ou quel pays, hein, enfin voilà, on aimerait ça, hein, quand on prie, ouais, Seigneur, que ton règne vienne, on pense à ça, que Jésus s'assoie sur terre, là, et puis qu'il dise, c'est moi le roi, je vais faire des miracles, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais quand on vient chercher Jésus pour qu'il soit roi, qu'est-ce qu'il fait ? Il se tire tout seul sur la montagne. Moralité, si je veux rencontrer Christ, où c'est que je vais le rencontrer ? Ben, tout seul sur la montagne. Je vois Matthieu qui sourit derrière, hein. Il dit, cool, pourquoi je perds mon temps le dimanche matin avec ces gens-là ? Je serais mieux tout seul, à deux à la rigueur, sur la montagne. Hein ? Mais c'est beau cette histoire. Hein ? Et parce que c'est, je ne l'ai pas tiré de là, hein, parce que tirer ça que de là, ça serait... Hein. Mais quand Jésus enseigne, il dit, toi quand tu pries, va dans ta chambre, ferme la porte, et ton père qui est seul dans ta chambre, ou sur la montagne, ou ailleurs, te le rendra, c'est-à-dire va te rencontrer à cet endroit-là. L'œuvre de Dieu pour nous, c'est que nous sachions écarter les fausses fins, voir la vraie fin, et au lieu de chercher un truc de plus pour la masquer, dire je vais faire ce qu'il faut pour me retrouver seul et croire en lui. Mais croire en lui, c'est vivre avec lui, c'est le connaître, c'est toute cette intimité. Si Paul parle de mariage pour parler de l'union de Christ et de son Église, l'Église, ce n'est pas le bâtiment, bien sûr, c'est quoi ? C'est nous. Donc notre relation à nous, cellule du corps de Christ, avec Christ, c'est le même genre de relation que Dieu a voulu illustrer par le mariage. C'est la chose la plus intime qui existe, la plus personnelle. C'est à la fois public, tout le monde sait que je suis chrétien, et c'est à la fois privé, ça se passe dans ma chambre, je ferme la porte. Et puis ça ne vous regarde pas ce que je fais dedans. Et c'est ça que Dieu veut. L'œuvre de Dieu, c'est que nous vivions avec le Christ et qu'il devienne ce pain, cette eau. C'est ce qu'il dit à la femme samaritaine, c'est un autre contexte, mais voilà, elle est là, et puis lui, il a soif, parce qu'il a soif d'eau, il vient de marcher, hein. Et puis il engage la discussion là-dessus, et si tu savais qui est celui qui te parle, tu lui demanderais à boire, et il te donnerait de cette eau, et tu n'aurais plus jamais soif. Bien sûr, elle aussi, elle ne comprend pas au début, hein. Et on est tous pareils. Mais ce pain qu'est Christ, cette eau qu'il nous donne, c'est la seule chose dont nous avons besoin. Et l'œuvre de Dieu, c'est que nous mangions ce pain et que nous buvions de cette eau. Quoi que ce soit qui passe avant ça est inutile. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas forcément mauvais, hein, mais ce n'est pas utile spirituellement. Et ce n'est pas le point de départ. Et on met tellement souvent les choses à l'envers, hein. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? On avait, c'est mardi, hein, chez toi, la réunion de quartier libre, et on est venu à la fin à d'autres discussions, mais parmi les discussions, il y avait comment connaître la volonté de Dieu ? C'est tellement difficile de connaître ce que Dieu veut pour nous. Ah, j'aimerais savoir s'il veut que je prenne ce boulot ou celui-là, que je fasse ci ou ça. Et puis, je ne sais plus quelle réponse j'ai donnée comme ça rapidement, et puis Virginie a dit, ah, ça c'est une réponse de pasteur, hein. Ah bon ? Pourquoi ? Je vois. Faut m'embêter, d'accord. On va se rater alors. Tu fais partie des gens qui ne peuvent pas m'embêter. Mais c'est quelque chose auquel, bien sûr, je réfléchis beaucoup, comme tout le monde, ou comme pas mal de monde. Mais en fait, on met les choses à l'envers. On est toujours avec nos projets, et puis on dit à Dieu, signe. Allez, il est bien celui-là de projet. Tu ne l'aimes pas ? Ok, bon, celui-là, tiens. Allez, signe. Tu n'aimes pas celui-là, je t'en fais un autre. Signe. Et Dieu dit, ouais, ok, alors, vous savez, Dieu est pragmatique, hein, il y a l'idéal, et puis il y a nous. Et donc, il y a la bonne façon de faire, nous on fait la mauvaise, c'est pas pour ça qu'il va nous laisser tomber. Il va nous aider dans nos projets, même si c'est pas le bon ordre. Hein. Attention, je suis pas en train de dire, si vous faites pas comme ça, Dieu est pas avec vous. Mais non, sinon il serait jamais avec nous. Mais quand même, si on comprend le sens de la vie, dans quel ordre ça doit se passer, mais c'est tellement mieux. Donc au lieu de dire à Dieu, allez, ouais, je vais te servir, qu'est-ce qu'il y a à faire alors ? Qu'est-ce que je sais faire ? Ben, moi, je suis ingénieur, je pourrais faire ça, ou moi, je suis musicien, je pourrais faire ça, ou moi, je sais faire ça. Mais il n'y a pas de règle, parce qu'on voit, après coup, hein, que Dieu peut prendre quelqu'un pour faire un travail, puis on se dit, ah, celui-là, il avait tous les dons pour ça, parce que naturellement, ça correspond. Mais des fois, Dieu prend quelqu'un, on se dit, mais c'est la dernière personne à laquelle on aurait pensé pour ça, puis c'est celle que Dieu a mis là, puis c'était la bonne. Donc, on ne peut pas se fier à est-ce que je suis adapté ou pas, je sais le faire ou pas, ça correspond à ce que j'aime ou pas. Des fois, oui, des fois, non, pas toujours. Il n'y a pas de réponse là-dessus. Mais l'ordre que Dieu a voulu, c'est d'abord, il y a une chose. Dans le cœur de l'homme, il y a une faim puissante, il y a ce vide qui est là, il y a cette... Hein, qui fait que, ben voilà, on a tous trouvé nos parades contre ça. Hein. Voilà, on boit, on lit, on court, on fait du sport, il y a le sexe, il y a l'argent, il y a les soldes, peu importe. Et chez les chrétiens, parce qu'on a déjà éliminé les grosses choses qui sont mauvaises, ben ça peut être faire des choses pour Dieu. Hein. Et c'est pas mal, c'est moins grave que de boire. Mais c'est quand même pas ça. L'œuvre de Dieu, c'est de dire stop. Jésus est pas dans la foule, il veut pas être roi, il est seul quelque part. Et moi je suis seul et je suis vide. Et il faut qu'on se rencontre. Et il faut que je puisse manger de ce pain, boire de cette eau. Quand on continue, donc Jésus leur répond ça à ces braves gens là, non, l'œuvre de Dieu c'est de croire là. Et là ils lui disent, quel signe miraculeux fais-tu pour que nous croyions en toi ? De nouveau, ils sont repartis sur le même truc, quoi. Ça. Mais c'est nous, hein. On est tous pareils, les humains. Ok, alors tu veux que je vive avec toi ? Alors qu'est-ce que tu montres-moi ? Non, mais qu'est-ce que je peux faire de plus ? Je suis là. Hein. Parce que j'ai arrêté de le dire, mais pendant des années, quand j'étais jeune et jeune chrétien, je me disais, mais quand ils ont tellement de chance, ceux qui ont vécu à l'époque de Jésus, mais si j'avais pu marcher à côté de lui, lui poser toutes les questions, vous imaginez ? Hein ? Ben non, ceux qui étaient, ils n'ont rien compris. Même les douze, ils n'ont rien compris. ils ont commencé de comprendre après quand ils ont reçu l'Esprit, et que il est devenu possible qu'une connexion se fasse par l'intérieur. L'extérieur servait à rien. Encore une fois, le petit prince avait raison. L'invisible. Voilà, on le voit bien qu'avec le cœur. C'est seulement l'Esprit de Dieu qui se connecte à notre esprit qui peut satisfaire cette faim. Si ça, ce n'est pas le premier, il n'y a rien. Donc, pas la peine de dire à Dieu, fais encore ça, fais encore ça. Et puis, lorsque finalement ça se passe, ces moments où on mange de Christ, on boit de Christ et qu'on est rempli, alors après, les choses sont simples, sont faciles, sont agréables. Et en plus, on est tellement bien. Vous savez, quand vous avez faim, réellement faim, parce que vous avez fait travailler, marcher, fait du sport, etc., et que vous avez un bon repas équilibré, mais un bon repas agréable, et puis vous mangez, et à la fin du repas, là, voilà, vous n'avez plus faim, jusqu'à ce que vous ayez de nouveau faim, il y a un moment là où on est bien, on est satisfait. Si en plus vous prenez le repas avec des gens sympathiques, que la table est belle, que, voilà, il y a ce moment de « Ah, je suis bien hein. ». Et on doit, c'est aussi ce qui se passe dans le monde spirituel. On a faim, on est insatisfait, hein, et si je rencontre Christ et je vis ce moment avec lui, et puis là, il y a ce moment où c'est, si j'osais, je ferais burp. Et là, je suis bien. Je sais que j'aurai de nouveau faim. Je sais que je vais être tenté d'aller à McDo plutôt que de chercher le pain de vie. Mais voilà, et je vais apprendre comme ça. Et ce qui est magnifique, c'est que lorsque nous faisons l'œuvre de Dieu, qui est manger le pain de vie et boire l'eau de vie, alors c'est là seulement qu'on arrive dans la suite. C'était un des versets qu'on avait donné pour cette nouvelle année et pour l'an dernier. Dans Éphésiens 2:10, nous sommes son ouvrage, Paul dit, ayant été créé pour les, alors là c'est un pluriel, les œuvres bonnes que Dieu a préparées à l'avance, et je vous lis dans la version Darby parce qu'elle me plaît, afin que nous marchions en elles. Mon rôle à moi, c'est de manger Christ, c'est de boire Christ, d'en être plein. Le rôle de Dieu, c'est de mettre sur mon chemin des œuvres, donc des choses concrètes à faire, et je vais y marcher dedans. Mais je ne vais pas marcher dans ces choses-là pour satisfaire ma faim, parce que c'est Christ qui a satisfait ma faim. Je marche dans ces choses-là avec l'énergie spirituelle, avec les calories spirituelles que m'a donné manger et boire Christ. C'est tellement différent. Et tu parlais de rancœur. Il y a une maladie très proche de la rancœur, c'est l'amertume. L'amertume et la frustration. Et les églises sont pleines de, quelles qu'elles soient, de chrétiens amers parce qu'ils ont fait des œuvres pour Dieu, mais en mourant de faim. Et puis ils sont, tout ce qu'on a fait, il ne se passe rien. Avec tout ce que j'ai fait, on ne m'a pas dit merci. Avec tout ce que j'ai fait, il n'y a pas de résultat. Avec tout ce que j'ai fait, et quand ce voyant-là s'allume, ça veut juste dire une chose. Vous n'avez pas fait l'œuvre de Dieu. Vous avez présenté vos œuvres à Dieu, vous lui avez demandé de les signer, il les a validées plus ou moins, mais ça ne s'est pas passé comme vous vouliez, et maintenant, cette activité-là n'arrive plus à cacher la faim qui est en vous, et il faut que ce soit la faute de quelqu'un, et comme ça ne peut pas être ma faute à moi, c'est forcément la vôtre. Mais quand je fais l'œuvre de Dieu, je me nourris de Christ, je marche simplement, et là, Dieu met devant moi des choses qu'il a préparées. Et alors bien sûr, ça va peut-être me fatiguer, ça va peut-être m'apporter de la souffrance, ça va peut-être être difficile, je peux même mourir en les faisant. Mais je vais mourir satisfait. Je vais mourir le ventre plein. Je vais mourir sans être amer. Quand je visite, jusqu'à encore maintenant, la maman de Pascal, qui a eu une vie compliquée, avec beaucoup de choses qui on pourrait dire qui lui ont manqué, une chose qui me bouleverse toujours, j'ai du mal à en parler sans avoir les larmes aux yeux, c'est que c'est quelqu'un qui avait compris ça. Et c'est uniquement presque dans ces moments-là qu'on peut voir la différence, parce qu'il y a des gens qui ont fait la même chose qu'elle, dans le monde visible, mais qui l'ont fait pour faire. Et puis à la fin de leur vie, ils sont amers. Hey, les jeunes aujourd'hui, ils font moins que nous. Hey, pourquoi ? Avec tout ce qu'on a fait, maintenant je suis seul dans une maison de retraite et personne ne vient me voir quand même. C'est triste, je ne me moque pas, hein. C'est triste, juste. Elisabeth, elle a eu une vie qui a été la sienne, hein. Pas parfaite bien sûr, mais on ne lui a jamais rien pris. Elle a toujours donné. Résultat, il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas de frustration. Parce que, je ne sais pas par quel mystère, mais alors qu'elle n'était peut-être pas dans le meilleur environnement pour ça, c'est quelqu'un qui a appris à manger et boire Christ. Et donc, on ne lui prenait pas sa vie, elle l'a donnée. Hein. Quand Jésus a été à la croix, il dit « Personne ne me prend ma vie, je la donne. » Pas de frustration. S'imaginez, hein, vous quittez le ciel, vous venez sur terre, vous laissez tout, et puis vous avez ce qu'il a obtenu. Si quelqu'un pouvait être frustré ou avoir de la rancœur, c'était lui. Hein. Il n'y en a pas. Pourquoi ? Parce que non, on ne m'a pas obligé à quitter le ciel. Non, j'ai choisi de le faire. On ne m'a pas obligé à mourir pour vous. J'ai choisi de le faire. Hein. Alors nous, on n'est pas Christ. Le parallèle s'arrête là. Mais c'est quand même vrai pour nous. L'amertume révèle que j'ai fait mes œuvres, même des bonnes, et j'ai demandé à Dieu de les bénir. Mais quand je fais l'œuvre de Christ, alors je suis rempli. Et là, les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi, elles sont là, je marche dedans. Des fois, je les abîme un peu, tant pis, en marchant dedans. Mais quand même, mais en tout cas, je suis bien, j'ai ce qu'il faut pour le faire. Et je termine avec ce verset qui m'accompagne ces derniers temps, Ésaïe 26, 12. « Éternel, tu nous donnes de la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. » Ça, c'est la conclusion d'avoir fait les œuvres de Dieu, parce que d'abord on a fait l'œuvre de Dieu, manger le pain du ciel, boire l'eau du ciel. Et moi, vraiment, j'aimerais toujours plus, pour moi d'abord, bien sûr, mais pour nous, qu'on marche comme ça. Mardi, quand je suis rentré chez moi de notre première soirée de la grande histoire, là, j'avais ce sentiment-là. J'étais tellement bien que je n'arrivais pas à dormir. Vous savez, quand on est tellement bien que le sommeil ne vient pas, quoi. Mais pas parce qu'on est stressé, on est bien, tellement bien. Je me dirais, c'était tellement doux, c'était tellement agréable. C'est pas pénible, c'est pas fatigant, c'est pas difficile. Et il y a la communion fraternelle, comme l'huile qui descend, qui coule, la présence de Dieu. Voilà, c'est bien. C'est pas parfait, c'est pas nous qui sommes parfaits. C'est juste, Dieu l'avait préparé, et puis nous, on se nourrit de lui, et on marche là-dedans en essayant de ne pas abîmer ce qu'il a fait. Et voilà. Et du coup, notre prière, c'est plus « Seigneur, aide-moi à trouver, à faire des choses », c'est juste que je puisse manger de toi, et après, aide-moi à pas casser ce que tu as mis devant moi, c'est tout. J'ai pas à inventer quelque chose. Tu as préparé ces œuvres, je veux marcher dedans en discernant que c'est toi qui les as préparées. Mon seul souci, c'est de pas les écraser. Et puis le reste, tu le fais. Et le sentiment qui va avec ça, c'est la paix. Seigneur, tu me donnes la paix parce que tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Mais nous, on doit faire l'œuvre de Dieu. Chercher Christ, manger et boire. Seigneur, merci parce que on peut parler de ça, mais ça n'a rien à voir avec le vivre. On ne peut pas le fabriquer. On sait que c'est compliqué, on le maîtrise pas, il n'y a pas une formule. Tu l'as voulu comme ça. Mais donne-nous le courage, la détermination, la force, la sagesse, l'envie de te chercher toi, tout seul. Et d'apprendre, chacun d'entre nous, mais aussi à nous y encourager les uns les autres, à nous y aider, à manger de toi, à boire de toi, afin que nous puissions faire l'œuvre que tu as voulu. Vivre avec toi, croire en toi réellement, partager cette vie avec toi. Et puis pour ces œuvres bonnes que tu as placées devant nous, chacun d'entre nous, elles sont différentes, ce sont les nôtres. Et puis aussi en tant que communauté, qu'on puisse y marcher avec sagesse et te remercier pour la paix qui nous accompagne pendant ce parcours, pendant cette marche avec toi. Alors fais ce travail dans nos vies, fais-le dans le cœur de nos frères et sœurs qui ne sont pas là ce matin aussi, de tous ceux qui sont autour de nous, que nous connaissons, que nous aimons. Et merci parce que tu ne nous as pas promis la facilité, mais tu nous as promis le repos. le repos de la foi en toi qui est celui qui nourrit nos âmes.